Voilà, nous remercions Claude. Que Dieu soit béni et qu'il conduise nos pas et nos paroles. Voilà, j'aimerais juste avec vous lire un passage d'introduction pour ce matin. Nous allons dans le deuxième livre des Rois, chapitre 5, où il va être question d'un miracle comme il y en a eu dans le ministère du prophète Élisée. Avant lui, il y a eu Élie. Et tous les deux ont marqué ces livres des rois avec différentes interventions miraculeuses de Dieu. Deux Rois chapitre 5, c'est l'histoire de Naaman, le Syrien. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, élève-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et le guérira, et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la Bada et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lève-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël, et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. On peut arrêter notre lecture de ce passage ici. On pourrait continuer. La suite est aussi fort intéressante. Mais pour le sujet qui va nous intéresser ce matin, on va arrêter notre lecture ici au travers de ce récit miraculeux que nous voyons. J'aimerais parler ce matin d'une réalité spirituelle tellement importante dont nous avons tous besoin les uns et les autres, celle vraiment, de la même manière que Naaman a été plongé dans ce Jourdain, c'est cette réalité spirituelle dont j'aimerais parler, de la manière dont nous vivons, Et nous voulons vraiment être plongés, nous, en Christ, dans sa parole et dans son esprit. Ici, nous avons affaire à un homme qui jouit d'un certain prestige. Cet homme est le chef de l'armée du roi d'Israël. Il a réussi, il jouit de sa faveur et d'une grande considération. Il a été vainqueur, car c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Donc on voit ici un homme aguerri à la guerre, un homme avec un uniforme de général, c'est le chef d'état-major. Il a peut-être quelques galons sur son uniforme, en tout cas c'est un homme qui a de l'importance, chef de l'armée, ce n'était pas rien et ce n'est encore aujourd'hui pas rien. Donc on voit qu'il a une place importante dans ce pays de la Syrie. Et cet homme, malheureusement, a un problème, un sérieux problème. Malgré sa réussite professionnelle, malgré ses victoires, malgré sa prestance, malgré sa considération, cet homme est lépreux. Cet homme est lépreux. Il y a un mais dans sa vie important, tout va bien, sauf qu'il y a quelque chose qui est gênant pour lui, c'est qu'il est considéré à cause de sa maladie comme étant impur, et à l'époque il n'y avait pas de remède à cela, et on peut comprendre que cela le gêne, sa peau est rongée, il y a des ulcères dessus, et en plus il y a des odeurs, la lèpre génère des odeurs, donc on peut comprendre que cet homme qui a pourtant une grande considération, une renommée importante, est gêné à cause de cette maladie. Parfois, dans notre vie, il y a des choses qui vont bien, mais il y a un problème qui vraiment nous pèse, il y a un fardeau qui est là, on n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est un petit peu comme la ville de Jéricho, dont il est dit un peu avant, eh bien, que cette ville de Jéricho était agréable à vivre. Agréable à vivre, mais il y avait là aussi un problème. C'est que dans cette ville de Jéricho, les eaux étaient amères et le pays était stérile. Tout allait bien. Un lieu, j'allais dire, où il faisait bon passer ses vacances, un lieu touristique, il y fait bon vivre, mais les eaux sont amères. Là, pareil pour Naaman, tout va bien dans sa vie, là c'est la réussite professionnelle, la considération qui est là, mais il est lépreux. Et nous savons dans la parole de Dieu que la lèpre est le symbole du péché qui nous gangrène, qui, j'allais dire, nous attaque au plus profond de notre être. Le prophète Ésaïe dira au chapitre 1er, verset 6, je cite, « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » De la plante des pieds, excusez-moi, plutôt à la tête. Voilà, tout est en mauvais état, tout est malade. Et c'est ainsi que la lèpre gagne tout le corps, la tête, il y a ses ulcères, les membres supérieurs, les membres inférieurs, donc toute sa peau, toute son, ça c'est rongé là par cette lèpre, et c'est là un symbole de ce que fait vraiment le péché. Il y a des passages dans la parole de Dieu au sujet du péché, et voilà, donc c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Il y a son uniforme, un bel uniforme de général en chef, qui est là, avec peut-être quelques couleurs, quelques galons, mais en dessous l'uniforme, il y a la lèpre. Seul apparaît ses mains, encore peut-être a-t-il des gants. Son visage, c'est difficile de le cacher, un visage, mais il est là. Peut-être que derrière, son uniforme laisse apparaître quelques ulcères au niveau du cou, du menton, je ne sais, sur le front, qui sont là, mais cet uniforme qui ne cache, en fin de compte, que son corps n'enlève en rien une réalité qui est là et qui, j'allais dire, vraiment le nuit au plus profond de son être, il est lépreux. Il est lépreux. Il y a des choses comme ça qui pourraient cacher, eh bien, une réalité spirituelle, mais qui ne l'enlève en rien. Qui ne l'enlève en rien, c'est que nous sommes des pécheurs et que sans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, cette réalité, elle nous colle à la peau. Et elle nous gangrène. Elle nous mine. Et on aurait beau réussir dans la vie, on aurait beau faire une carrière professionnelle parfaite, on aurait beau jouir de toutes les considérations possibles et inimaginables, si le péché est là, cela ne vaut rien, et cela vraiment enlève cette communion qui peut y avoir entre nous et le Seigneur. Sans l'intervention de Dieu, cet homme serait resté ainsi. Il a failli passer à côté d'une grande bénédiction, cet homme. Il a failli passer à côté d'une grande bénédiction à cause de l'état de son cœur. Je pense, non seulement son corps est malade, mais quand on lit le verset 11 et 12, on voit que cet homme, il est susceptible. Cet homme, il est irrité. Cet homme, il est en fureur. On voit que l'état de son cœur est atteint d'une autre gangrène. Il est atteint d'une autre lèpre qu'on pourrait appeler l'orgueil. L'orgueil est là. Certainement, c'est un homme habitué aux honneurs. Un homme habitué aux faveurs, à ce qu'on lui fasse des faveurs. C'est certainement le deuxième homme dans l'état qui est là, dans cet état de Syrie qui est là. Donc un homme très important, qui est habitué à la mondanité, qui est habitué vraiment à la gloire humaine. D'ailleurs, avec le roi de Syrie, ils vont se tromper. Quand la petite fille, là, leur dit, eh bien, que s'il était à Samarie, il y aurait le prophète qui le guérirait de sa lèpre, ils vont trouver le roi. Pour eux, c'est ça, en fin de compte. Il faut traiter d'égal à égal. Ils vont trouver le roi, mais le roi, il ne peut rien faire. Le roi de Samarie ne peut rien faire pour eux. C'est le Seigneur qui peut toutes choses. Et cet homme est irrité, susceptible. Cet homme est plein d'orgueil. Il méprise ce que lui a dit Élisée. On voit que cet homme aurait voulu, comme il le dit, que Élisée vienne en personne devant lui. Alors Élisée a envoyé quelqu'un d'autre. Il n'est pas vu en personne, Élisée. Élisée n'en a que faire des prestiges humains. Et puis, on voit que Naaman aurait voulu que Élisée agite la main sur la place. Ah, il aurait voulu que ça soit public. On voit toujours cet homme qui est en recherche d'une certaine considération. Son rang en impose. Il est chef de l'armée, en plus, il est dans un pays conquis, donc il est en mesure vraiment d'imposer quelque chose, et voilà, donc il méprise, il est irrité, il est susceptible. Il est susceptible. Se baigner dans un fleuve, le Jourdain, en plus, cette eau boueuse. Les fleuves de Damas, ces beaux fleuves, tels la Garonne, tels la Loire qu'on a en France, ces magnifiques fleuves. Ah, c'est beaucoup plus beau, c'est prestigieux, on voit. Il est toujours dans cet état d'esprit-là, du prestige, de la considération. Les fleuves de Damas, de l'Abana, du Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? En plus, non seulement elles sont boueuses, ces eaux, non seulement le fleuve est moins grand, mais en plus, ça veut dire quoi, se baigner dans un fleuve? Ça veut dire enlever son habit, son uniforme de militaire haut gradé. Ses serviteurs sont là. Il va se découvrir devant ses serviteurs et laisser apparaître toute la plaie de son corps, tous les ulcères, tout ce que la lèpre a pu déjà faire dans son corps, à la ronger, les chairs qui sont là. Tout ce qui fait sa honte va apparaître au grand jour. Alors, à cause de cet état de cœur, il a failli passer à côté d'une bénédiction si ses serviteurs ne lui avaient pas dit, si il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. L'évangile, c'est tellement simple. Mais on veut des choses difficiles, on veut des choses compliquées. Parce qu'en fait, c'est en Christ, et en Christ seulement, que nous avons le remède. Il n'y a pas besoin de chercher, certains cherchent, mais ils peuvent chercher longtemps, mais c'est en Christ que nous avons la rédemption, le pardon. C'est en Christ que nous pouvons vivre cette vie nouvelle. Et pour nous, chrétiens, engagés déjà dans le Seigneur, il nous faut rester plongés, immergés dans le Seigneur Jésus. Et c'est ça, ce matin, j'aimerais insister, mais il me fallait parler d'abord de Naaman pour faire ressortir vraiment ce qu'il était en train de vivre, qui nous correspond si bien tant que nous vivons sans Christ, ou que nous aurions tendance à négliger d'être toujours en Christ, d'être toujours en Christ. Naaman va devoir se plonger dans l'eau cette fois. Et nous savons que dans le grec, le Nouveau Testament a été écrit en grec, que ce mot plonger, immerger, a donné ce mot baptiser en français, qui signifie être plongé, être immergé. Et nous avons besoin d'être immergés en Christ. J'aimerais lire avec vous dans Romains chapitre 6, verset 3. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Alors, ce texte nous parle de la signification du baptême, mais nous parle aussi d'une réalité spirituelle dont le baptême d'eau n'en est que le symbole. Et cette réalité spirituelle, c'est le fait, pour nous, les uns et les autres, d'être plongés, d'être immergés dans l'efficacité de l'œuvre de la croix à Golgotha. On aurait pu prendre son baptême d'eau sans croire en cette réalité, sans nous identifier à Christ, ça ne servirait à rien. C'est parce que nous nous sommes rendus conformes, j'allais dire, hein, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. C'est parce que c'est ça, c'est opéré dans notre cœur, dans notre vie, que nous avons pris, le symbolisant, le baptême d'eau. Parce que le corps, lui aussi, attend en espérance sa rédemption. Parce qu'un jour, ce corps méprisable ressuscitera glorieux. De la même manière que le corps méprisable de Naaman est ressorti tout neuf. Que Dieu soit béni. Mais nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et il nous faut, les uns et les autres, toujours rester plongés dans l'efficacité de l'œuvre de Jésus à la croix. La mort de Christ, nous l'avons rappelé. Et lorsque nous prenons la Sainte Cène, en fin de compte, On a besoin de se le rappeler. C'est pour ça aussi que Jésus a institué la Sainte Cène. Faites ceci en mémoire de moi. Il sait très bien que nous avons tendance à oublier certaines choses et que nous avons besoin de rappeler à notre conscience régulièrement qu'il est mort pour nos péchés à la croix et qu'il est ressuscité. Ce que nous faisons le dimanche matin en prenant la Sainte Cène rappelle cette œuvre et rappelle en même temps la nécessité pour nous d'être constamment plongé dans cette œuvre. Il y a un lien, bien sûr, entre le baptême et la Sainte Cène. Le baptême, on est baptisé une seule fois. D'accord ? Par contre, la Sainte Cène, on le répète souvent. Au moins une fois par semaine. Ça nous montre que, en fin de compte, un engagement, on l'a pris, oui, une fois pour toutes, mais que la vie spirituelle, comme la Sainte Cène, a besoin d'être entretenue régulièrement. Et nous avons besoin, pour pouvoir être dégagés, débarrassés de cette lèpre qu'est le péché, d'être plongés dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes morts au péché. Et j'allais dire, notre vie a disparu en Christ. Elle a disparu en Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Que son nom soit béni. Juste encore un verset qui ressemble à ceci. Dans Galates chapitre 3, verset 27. Galates 3, verset 27. Voilà, on retrouve cette même pensée. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Nous avons revêtu Christ. Il n'y a pas de vie chrétienne sans cela. On pourrait avoir une apparence chrétienne, ça c'est facile à avoir, mais il n'y a pas de vie chrétienne sans être plongé, sans être baptisé en Christ. Et ça va plus loin que le baptême d'eau, on comprend bien. Et c'est encore pour nous quelque chose dans lequel nous voulons vivre, dans lequel nous voulons vivre pleinement. Être plongé en Christ, être plongé dans l'œuvre de Jésus à la croix, être plongé dans son sang, être en communion parfaite avec lui, afin que cette vie nouvelle de Christ puisse s'opérer. On peut vraiment comprendre qu'une vie nouvelle s'est engagée pour Naaman. D'ailleurs, même son état de cœur a changé, puisqu'il va reconnaître que le Dieu d'Israël, c'est le seul Dieu. Il va le reconnaître. Son état de cœur va à partir de ce moment-là, changer totalement. Alors, non seulement il nous faut être plongés, demeurer en Christ, mais aussi dans l'efficacité du Saint-Esprit. On parle, il y a des textes comme Matthieu chapitre 3, verset 11, où Jean-Baptiste dira que Jésus, lui, nous baptisera du Saint-Esprit et de feu, et puis il en est parlé encore dans Actes chapitre 1, verset 5. Le baptême, je rappelle, c'est être plongé, donc être plongé dans le Saint-Esprit. Quand on plonge un objet dans un liquide, voilà, donc il est vraiment dedans, il s'imprègne de cet élément et nous sommes plongés ensemble dans l'œuvre du Saint-Esprit et dans le Saint-Esprit. Et nous voulons sans cesse être imprégnés du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous invite à être toujours remplis du Saint-Esprit, afin que nous puissions porter le fruit de l'Esprit. Nous faisons une étude le mardi soir suivie sur le fruit de l'Esprit. Mais j'aimerais aussi parler du fait d'être aussi plongé dans la parole de Dieu. notre vie, notre façon de vivre est déterminée et conduite par l'influence que la parole de Dieu a sur nous. D'accord ? Si cette parole a peu d'influence, voilà. Mais si nous sommes baignés dans la parole, plongés dans cette parole, alors elle va produire son effet qui peut guérir les cœurs, qui conduit nos vies, qui change notre mentalité. Être plongé dans la parole. Il nous est dit que le Seigneur lave son Église par l'eau de la parole. Nous sommes lavés par l'eau de la parole. Jacques dira, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Voilà. Être plongé dans la parole. Afin d'être vraiment imprégné, que tout notre corps, notre être, soit imprégné par la parole. On voit l'importance de la parole de Dieu dans la Bible, dans le psaume 119, qui est un éloge vraiment à cette parole. Nous voulons vraiment que nous nourrir de cette parole afin qu'elle produise son effet, de la recevoir avec douceur. Parce que, évidemment, cette parole va peut-être, comme pour Naaman, il reçoit une parole de Dieu de la part d'Élisée, mais ça a provoqué une réaction. Et cette réaction a fait remonter sa susceptibilité, son irritation, son orgueil. Et c'est vrai que la parole de Dieu va peut-être faire remonter certaines choses dans notre vie. Recevoir avec douceur cette parole. Elle est comme un miroir. Oula, ça va pas là. Quand on se regarde dans un miroir, on voit ce qui va et on voit ce qui ne va pas. Et là, la parole révèle, en nous, ce qui ne va pas. Parfois, on a des réactions. Ah, mais ça m'est déjà arrivé. Ah non, comment ? Pas ça, quand même pas. Et puis, c'est vrai que des fois, on réagit. Bon, puis comme Naaman, le Seigneur, il sait nous raisonner. Si je t'avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors, c'est vrai que parfois, nous réagissons à la parole parce qu'elle, vraiment, elle va au plus profond de notre être, faisant ressortir certaines choses. Mais nous voulons, dans la foi, obéir à cette parole pour obtenir cette grâce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, nous débarrasser de tout ce qui nous pèse afin que nous puissions vivre une vie normale. Jésus a pu dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Un message qui s'adresse bien sûr à ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais un message qui nous concerne nous aussi. Ça nous concerne nous aussi. Si nous sommes fatigués et chargés, venons à Jésus. Venons à Jésus. Une dernière chose, c'est que il nous faut être plongés dans la communion fraternelle. Être plongé dans la communion fraternelle. Et ça aussi, c'est pas forcément évident. Être plongé dans la communion fraternelle, ça peut faire ressortir aussi certaines susceptibilités, certaines faiblesses dans notre cœur. Mais c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous. Il persévérait dans la communion fraternelle. Ceux qui avaient cru étaient introduits, ils n'avaient jamais connu ça avant, mais ils étaient introduits dans la communion fraternelle. Il y a là, comme un choc, qui se passe. Imaginons des personnes qui n'ont jamais connu une vie d'église et qui, voilà, suite à leur conversion, sont plongées dans l'église. Ça fait un choc culturel, ça aussi, Mais un choc tellement bénéfique pour l'âme, parce que dans la communion fraternelle, il s'opère par l'œuvre du Saint-Esprit des choses extraordinaires. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, là, je l'ai lu dans la version 1910, Louis II 1910, il est traduit différemment dans d'autres versions, mais la pensée générale est quand même là, c'est que le Saint-Esprit, on est plongé, baptisé dans le Saint-Esprit, pour former un seul corps. Pour former. Et nous sommes, par là même, plongés dans ce corps. D'ailleurs, certaines versions ont traduit comme ça. Hein. Plongés dans ce corps. Et quelle que soit l'origine, soit juif, soit grec, et voilà, des gens qui ne pouvaient pas s'entendre, juifs, des grecs, des esclaves et des libres, on peut imaginer le choc que ça a pu faire dans la première église. D'ailleurs, il y a eu des tensions à un moment donné, hein, on le voit en lisant les Actes des apôtres. Cette nouvelle fraternité qui n'existait pas parce que c'était que les juifs entre eux, hein. Et maintenant c'est tout à fait nouveau. Ils forment un seul corps et ils persévèrent dans cette communion fraternelle avec les juifs, les grecs, les esclaves et les libres. Et nous sommes nous aussi aujourd'hui tous différents les uns des autres. Les rangs sociaux ne sont pas les mêmes, les métiers ne sont pas les mêmes, les origines des pays sont totalement différents les uns des autres. Notre parcours de vie est différent les uns les autres. Et nous sommes tous là maintenant, nous formons un seul corps. Alléluia. Amen. Et nous sommes plongés dans cette communion fraternelle. Et c'est vrai que ça peut faire remonter certaines susceptibilités. Cette communion fraternelle a j'allais dire, comprenez le terme que je vais employer, a ce pouvoir, cette efficacité de faire ressortir dans notre vie certaines choses. Au contact des autres. Au contact des autres. Mais plonger dans ce bain-là de la communion fraternelle, il s'opère une œuvre dans notre cœur guérissante. Alléluia. Une œuvre guérissante qui nous fait tellement de bien. Qui apporte un baume sur le cœur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors oui, Seigneur, nous voulons encore et toujours demeurer en toi, dans ta parole, dans l'Esprit Saint et dans la communion fraternelle, que son nom soit glorifié. Amen. Seigneur, toute notre vie, avant de te connaître, nous avons cherché des choses futiles. Mais maintenant, tu as su toucher notre cœur et nous voulons chercher ces choses éternelles, te chercher toi de tout notre cœur, ta parole, que ton nom soit ainsi glorifié, Seigneur, parce que tu diriges nos pas aux uns et aux autres. Seigneur, nous voulons vraiment nous plonger en toi, demeurer en toi et dans ta parole. Tu connais, Seigneur, nos vies et peut-être ce message a parlé à quelqu'un ce matin qui sent, comme Naaman, vraiment que son cœur, que sa vie est comme gangrené. Et Seigneur, je te prie vraiment pour que cette personne puisse trouver refuge en toi. Être plongée en toi, Seigneur, et dans ta parole, dans ton esprit. Ah Seigneur, que cette vie divine s'opère, cette résurrection spirituelle s'opère, comme cela fut le cas physiquement pour Naaman. Ah Seigneur, merci, parce que c'est toi qui enlèves les fardeaux. Seigneur, que ton nom soit glorifié pour ce que tu vas faire. C'est toi qui enlèves des cœurs la dépression pour y mettre ta joie. Oh, à toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.